Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, je reçois Jean-François Colosimo. Éditeur, vous dirigez les éditions du Cerf, essayiste, nous vous avions reçu il y a quelques mois pour votre livre « Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient » paru chez Fayard. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Alors nous sommes ensemble ce matin, c'est pour évoquer ou pour cerner une question importante, me semble-t-il, pardon, c'est la perception des chrétiens d'Orient dans l'opinion, sinon dans les médias. Comment en effet présenter les orientaux baptisés, présenter leur cause de manière sereine et intelligente. On voit bien que certains sont embêtés par l'aspect confessionnel, au nom d'une forme de laïcité, ou même entend-on parfois qu'ils méritent bien leur sort après avoir soutenu les dictatures. Ou encore, d'autres se demandent ce qu'ont fait ces chrétiens, ce que font ces chrétiens toujours en Orient, donc posant la question de leur légitimité sur des terres que nous savons ancestrales. Comment aborder cette question, Jean-François Colosimo ?
Je crois qu'il y a toujours dans les civilisations et des cultures des angles morts, et ces angles morts, je dirais qu'ils dépendent essentiellement de la notion de proximité, n'est-ce pas ? C'est finalement celui qui est le plus proche, qui en quelque sorte devient le plus méconnu, voire le plus rejeté, voire le plus caricaturé. Alors, on le sait bien, ces chrétiens d'Orient, ils posent plusieurs questions à l'Europe. D'abord, la première question, c'est la question de l'origine du christianisme. Nous avons tendance à confondre, hein, christianisme, Europe, Occident. Non, 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 le christianisme, c'est d'abord une religion orientale. Et ces chrétiens d'Orient ne sont pas, en quelque sorte, des petits frères perdus de l'autre côté de la Méditerranée, qui aurait fleuri à l'occasion de nos expéditions, croisades, colonies, ou je ne sais trop quoi. Non, non, toute la culture européenne, hein, qui est marquée par ce christianisme, en dépit de la sécularisation, et la sécularisation c'est d'ailleurs un phénomène très chrétien, bah, toute cette culture européenne, elle leur doit cette manière de concevoir les relations non seulement à Dieu, mais aussi entre le politique et le spirituel, entre l'homme et la femme, entre la foi et la culture. C'est une culture productrice d'un art qui, dans toute l'histoire de l'Europe, a été pendant des siècles sacré. Donc, il y a un problème de dette. Il y a un problème de dette impensée. Il y a un problème de dette qui, en fait, n'est pas reconnu et qu'on n'entend pas du tout reconnaître. Parce qu'au fond, disons-le, je ne veux heurter personne, mais finalement, être en dette de Cluny, de Notre-Dame, de l'essor des droits de l'homme, à une bande de gars qui ont l'air quand même très orientaux, pour ne pas dire un peu métèques, olivâtres, etc., c'est évidemment une espèce de choc qui est extrêmement fort, de la même manière que le fait de comprendre que tous les musulmans ne sont pas arabes et tous les arabes ne sont pas musulmans. Donc c'est une part impensée. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'idéologie dominante, la religion séculière en quelque sorte de l'Europe aujourd'hui, c'est évidemment la cause humanitaire, non sans raison. L'Europe sortie, je dirais, des abîmes qu'ont été Verdun, Auschwitz, etc., se préoccupe essentiellement de la figure de l'homme, mais cet homme-là, il est en quelque sorte un peu trop abstrait. Et il vaut mieux qu'il soit en quelque sorte sur un autre continent, Afrique, Amérique latine, etc., que dans cette proximité. Pourquoi ? Parce que cette façon de penser les droits de l'homme, l'humanitaire, elle procède là aussi de l'Évangile, elle procède là aussi de cette conception de l'universalité de l'homme qu'on trouve dans les épîtres de saint Paul, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais je dirais que plus, en fait, on dit chrétien, moins d'un coup cet impératif humanitaire s'impose à la conscience, parce que on est gêné, on se dit, est-ce que ça va pas être un particularisme? Est-ce qu'on va pas apparaître, en fait, nous, Européens, en quelque sorte lié à quelque chose qui serait un motif d'intérêt plus qu'un motif de gratuité. Voilà.
Mais pourquoi sommes-nous foncièrement gênés? C'est ça qui est quand même embêtant, c'est qu'on assiste à l'éradication, disons lente ou plus ou moins rapide dans certaines régions du Proche-Orient, de communautés ancestrales. Donc on sait qu'elles appartiennent à une mosaïque et que cette mosaïque provoque l'altérité et est seule garante d'avenir. Donc au moment où nous parlons d'altérité chez nous, on voit cette altérité disparaître chez eux. Donc au contraire, on devrait être fier, on devrait embrasser cette cause.
Oui, mais il y a trois raisons, vous voyez. Il y a une mémoire coupable, puisque dans les malheurs des chrétiens d'Orient, historiquement, il n'y a pas que l'islam. Les grandes puissances européennes ont joué leur rôle aussi. Rappelons la Russie qui abandonne les Arméniens, ça se solde par le génocide de 1915. La France qui abandonne les Grecs, ça se solde par l'exode des populations grecques d'Asie mineure en 1923. En premier génocide de l'histoire, première purification ethnique de l'histoire, les Britanniques qui abandonnent les Assyriens en 1932, au massacre commis par les Hachémites. Bon, nous sommes en fait face d'abord à ça. Mémoire coupable pour ceux qui savent.
Donc cette dette, toujours cette dette, mais une autre forme de dette, une dette morale.
Ensuite, effondrement culturel. Comme on ne sait plus très bien ce que c'est que le christianisme en Occident, savoir ce que c'est que le christianisme, ce que sont les christianismes en Orient, c'est assez compliqué. Troisième point, c'est que s'il y a une certaine mobilisation caritative, médiatique, elle ne gagne pas les consciences nationales et elle ne gagne pas la conscience européenne. Eh ben d'abord parce qu'il n'y a pas de politique européenne au Proche-Orient, parce qu'il n'y a pas de politique européenne étrangère en général. Et deuxièmement aussi, parce qu'il y a un désengagement des puissances européennes qui peuvent agir, la France, la Grande-Bretagne, par rapport à ces mêmes chrétiens d'Orient. Là aussi, c'est très très clair, il y a une désaffection, les chrétiens d'Orient ne sont plus qu'une variable d'ajustement, en quelque sorte, avec une certaine forme de pragmatisme qui est pas loin du cynisme, les puissances européennes qui pourraient agir, et les États-Unis derrière, entérine finalement le décrochage démographique à des chrétiens d'Orient et n'en font pas une cause. Le dernier point, certainement pour excuser tout de même un peu la difficulté qu'ont les gens de s'approcher de tout cela, c'est qu'effectivement, les chrétiens d'Orient, ça réclame de lire un tout petit peu, de se documenter un tout petit peu, parce qu'effectivement, vous venez de le dire, c'est cette fabuleuse mosaïque aussi d'églises, de peuples, de cultures, de langues, une diversité. Et c'est d'ailleurs cette diversité qui est importante pour l'avenir du Proche-Orient.
Alors on a vu des figures intellectuelles françaises, je pense à, plutôt qui viennent de la gauche, je pense à Régis Debray, à Jacques Julliard, même Bernard-Henri Lévy s'est emparé de cette cause un peu tardivement, certes, mais il n'est jamais trop tard, des chrétiens d'Orient. Est-ce que finalement on a besoin de grands, de mentors pour nous montrer la voie? Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu paresseux intellectuellement?
On est devenu plus que paresseux intellectuellement, on s'est replié, on est devenu frileux. Alors vous mentionnez à raison Régis Debray, il faut se rappeler que la question des chrétiens d'Orient, elle n'est pas neuve. Pour dire la vérité, la question des chrétiens d'Orient, c'est une question éternelle. Depuis, en fait, ces grandes séparations entre l'Orient chrétien et l'Occident chrétien, puis la survenue de l'islam. Régis Debray, il agit dès 2005, et se voit confier une mission par Jacques Chirac, Dominique de Villepin est alors Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, et à cette mission, elle porte effectivement essentiellement sur les chrétiens d'Orient, bien que, pour rassurer Bruxelles et l'Europe, il faille nommer cette commission, ou cette mission d'enquête, une mission sur les minorités du Proche-Orient.
On a peur des mots, c'est ça que vous voulez dire?
Bien sûr, on refuse de nommer chrétien, c'est un mot qui fait mal à la bouche. Et puis deuxièmement aussi, la France malheureusement entre, par Régis Debray, bien sûr, qui lui est tout à fait arc-bouté contre ça, dans cette logique des assez britanniques au fond, assez anglo-saxonnes, des minorities. Minorité en français, vous savez, c'est un seul sens en bon français, c'est le fait qu'on n'ait pas atteint l'âge de la majorité. C'est un terme totalement transféré, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi les minorités? Est-ce qu'on est minoritaire? lorsque, par exemple, on a été véritablement à la source de tout l'élan du panarabisme, n'est-ce pas ?
Oui, on voit des chrétiens à la fondation du Parti Basse, par exemple.
Absolument. Est-ce qu'on est minoritaire lorsque on part une part décisive à la floraison des arts et des lettres ? Poésie, littérature, peinture. Hein ? Donc, c'est une mauvaise compréhension. Les Occidentaux ne comprennent pas le tapis oriental. Dans le tapis oriental, c'est pas la trame qui compte, ce sont les détails. Ou les détails apparents, ce sont les couleurs. Donc, Régis Debray a mené cette grande mission à Amman, à Beyrouth, à Damas, à Jérusalem. Il en a fait un rapport tout à fait excellent. Nous espérions que l'affaire puisse déboucher sur un observatoire des chrétiens d'Orient. L'Europe est intervenue et finalement cet observatoire n'a pas pu être fondé parce que là encore, le terme chrétien était en quelque sorte offensant. Vous savez, mais c'est un peu comme la fameuse question des racines chrétiennes de l'Europe. Bon, est-ce qu'il fallait inscrire ça dans la Constitution ? Peut-être pas. N'est-ce pas ? Mais on ne peut pas dire non plus que l'Europe soit née totalement sous X. Alors vous parlez effectivement aussi de Jacques Julliard, dont on connaît les qualités tout à fait profondes du point de vue d'une forme de sensibilité justement chrétienne qu'il n'a jamais désavouée, y compris dans ses engagements sociaux, politiques, littéraires. Ah, il y a quelque chose en lui de l'héritage de Péguy, donc il a agi aussi. Cela, alors ça c'est beaucoup plus récent, ça a eu pour effet cette pétition qui a réuni pas mal d'intellectuels que Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, profitant du fait que la France ait la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, finalement engage la question des chrétiens d'Orient, mais sans résolution, sans moyens, sans stratégie, sans plan, n'est-ce pas ?
Mais
donc
encore
il y a une
fois,
pétition de principe.
Mais encore une fois, sous le parapluie du droit et de la protection des minorités.
Absolument, toujours. Voilà. Quant à Bernard Henri-Lévy, effectivement, son engagement auprès de la cause kurde, je pense, a servi de révélateur à cette question des chrétiens d'Orient, bien que la lutte contre ce qu'il considère être ce néo-totalitarisme vert soit effectivement plus déterminante. Les chrétiens d'Orient, en fait, sont les grands abandonnés, les grands sacrifiés de la nouvelle refonte de l'ordre mondial. Et pour une très simple raison, finalement. Et c'est ça qui nous gêne en eux, finalement. C'est qu'ils sont l'altérité radicale. Parce qu'ils sont toujours l'autre de l'autre, n'est-ce pas ? Ils témoignent toujours, au fond, dans ces pays du Proche-Orient, que personne n'est chez lui au sens propre, que l'histoire est diverse, et que les identités peuvent se renverser de manière perpétuelle, que les populations peuvent être déplacées, elles gardent malgré tout leur identité. Et vous voyez par exemple, regardez en Terre Sainte, hein, un chrétien arabe, n'est-ce pas, hein ? Mais il est d'abord un arabe pour les Israéliens, et il est d'abord un chrétien pour les arabes musulmans. Donc c'est un déplacement perpétuel. Ce déplacement perpétuel, on n'aime pas.
Et c'est une vie impossible finalement pour eux.
Oui, c'est une vie de nomadisme intérieur perpétuel. Parce que, en fait, nous vivons une époque où on aimerait assigner les gens, finalement les fixer, les arrêter dans une version, celle qui nous convient. Et eux, je dirais, ce sont des transfuges permanents parce qu'ils témoignent que l'histoire est infiniment complexe. Ils sont à la fois à l'origine du christianisme, pour ce qui est véritablement là de la foi chrétienne, mais ils sont aussi, en quelque façon, à l'origine de l'islam, pour ce qui est de la formation de la civilisation arabo-musulmane, qui est une civilisation de synthèse. Donc, ils sont toujours là où il faut pas. Et deuxièmement, ce sont toujours des médiateurs, évidemment.
Donc, à une période, on a vraiment besoin d'eux encore plus.
Mais cette période où on aurait besoin d'eux, vous avez raison, Sébastien Courtois, cette période où on aurait besoin d'eux fait que, en fait, on a envie de plus du tout les voir. Parce que nous sommes dans un univers où, au contraire, on veut faire sauter les médiations. Et la question que posent les chrétiens d'Orient, c'est de savoir si, finalement, nous n'acceptons pas que là-bas, de l'autre côté de Méditerranée, les identités soient meurtrières, ça c'est l'islamisme lorsqu'il tourne au djihadisme, ou alors simplement folklorique, c'est-à-dire quelques chrétiens d'Orient, gardiens de musées de pierre, gardiens de sanctuaires, qui seraient convoqués le soir dans les hôtels de touristes pour exécuter quelques danses ancestrales ou chants en araméen.
Alors pour préciser une chose, la voix qui est portée par les prélats, par les autorités religieuses, je pense au patriarche Sacco par exemple, et à d'autres évêques et responsables, eux clament l'envie de citoyenneté, donc l'envie d'être membre à part égale dans un pays qui s'appelle l'Irak par exemple. Donc eux refusent, je pense au patriarche Rai aussi, le patriarche maronite, refusent que vous disiez cette notion de minorité. Nous sommes la nation avec nos frères musulmans.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est une théorie très très ancienne. C'est la théorie de la panarabité, c'est la théorie aussi soutenue par Monseigneur Georges Codre du Mont-Liban, qui est l'évêque orthodoxe du Mont-Liban, qui a le plus théorisé, n'est-ce pas, véritablement, cette alliance, cette proximité, cette... Problème, c'est que on voit pas très bien ce que veut dire une citoyenneté lorsqu'il n'y a pas d'État. Problème, c'est qu'on voit très mal ce que veut dire une nation lorsqu'on est sur le registre d'un communautarisme ethnico-religieux très fragmenté.
Ils vivent dans un rêve, c'est ce que vous nous dites ?
Non, je crois qu'ils maintiennent la meilleure théorie possible, laquelle, malgré tout, a été démentie. Ils la maintiennent, je pense, parce qu'il faut la maintenir, ils ont raison. Ils la maintiennent parce qu'ils n'en ont pas, pour l'instant, de rechange. Mais malgré tout, entre les autorités ecclésiastiques, quelles qu'elles soient, de quelque confession qu'elles soient, et le peuple, il y a désormais un hiatus, une rupture, on le sait. Les autorités se battent pour le maintien sur place. Les chrétiens d'Orient, pour la première fois dans l'histoire, et c'est ça la nouveauté, ont été tellement alarmés par ce lâchage général que les gens, les simples gens, les fidèles, les croyants, ne veulent pas, eux, rester sur place et préfèrent cette fois-ci partir. Il y a ce hiatus. Alors, faut pas, c'est pas tous les primats, c'est pas tous les gens qui appartiennent au peuple, mais il y a aujourd'hui ce hiatus qui est profond, la confiance, finalement, y compris envers les musulmans, qui a existé, qui était traditionnel. Cet espoir de faire une nation ensemble, ça a été démenti par la brutalité, la violence généralisée que les chrétiens ont dû endurer ces 15 dernières années.
Alors Jean-François Colosimo, vous vous engagez, vous écrivez pour la presse aussi, vous prenez votre plume comme éditorialiste, et je voudrais rappeler un très très bel article que vous avez écrit au mois d'avril dernier, comme réaction à des critiques vis-à-vis de la visite du pape et du patriarche écuménite Bartolomeo à Lesbos, pardon, où on voit qu'il a ramené 12 réfugiés musulmans, on ne savait pas la confession au début, puis ça s'est su, et vous avez pris votre plume pour défendre cette position. Qu'avez-vous voulu dire ?
Pour la défendre, parce qu'elle a été attaquée, parce qu'on disait, voilà, que ce pape qui ne comprend rien finalement à l'Europe, qui vient d'Amérique latine, ce pape qui est en quelque sorte un gauchiste brouillon, j'ai pu l'entendre, ramène en plus des musulmans au cœur de Rome, et finalement, est-ce qu'il comprend ce qu'il fait, est-ce qu'il comprend pas notre crainte, disaient ces gens-là, des flux migratoires, des réfugiés, est-ce qu'il sait ce qu'il fait et pourquoi il n'y a pas de chrétiens ? Alors, pourquoi il n'y a pas de chrétiens ? La réponse, elle est très simple, c'est qu'il aurait dû y en avoir, leurs papiers n'étaient pas prêts et même le Saint-Siège n'est pas au-dessus des lois internationales. Mais en même temps, lorsque ça s'est présenté et qu'en fait il y avait ces 2-3 familles qui faisaient une douzaine de personnes, le pape n'a pas renoncé. Et il n'a pas renoncé, je crois, parce que c'est essentiel de comprendre ça, n'est-ce pas ? C'est qu'on ne peut pas avoir une politique de quotas. On ne peut pas dire, parce que d'abord, au prorata des appartenances religieuses, ce serait tout à fait défavorable aux chrétiens, et puis ça n'a pas de sens. Ça, c'est les organisations internationales qui pensent comme ça. Deuxièmement, on ne peut pas non plus, exclure les musulmans au point de, finalement, tomber dans le piège de Daesh. Le piège de Daesh, il fallait que les musulmans soient traités par le pape sur un pied d'exception pour finalement retrouver un statut commun. Daesh veut enlever aux non-musulmans et aux musulmans leur humanité, n'est-ce pas ? Mais la véritable humanité, elle ne compte pas lorsqu'il y a une opportunité de tendre la main. C'est ce que le pape a démontré. Et alors évidemment, par là, ça a beaucoup affolé, je dirais, tout ce qu'il y a finalement de chrétiens assez identitaires pour qui la foi est une identité et qui sont dans une espèce de, à la fois de crainte obsidionale de l'autre et qui veulent dans le même temps promouvoir la croisade. Alors le pape leur dit non Et d'ailleurs, son acte s'institue tout à fait dans cette poursuite de ce qu'avaient fait les chrétiens dans l'Empire romain lors des invasions barbares. N'est-ce pas? L'Empire romain était sûr de mourir, était dans l'agonie, dans l'angoisse, etc. Les chrétiens sont allés à barbares pour les baptiser. Il en est sorti le grand Moyen-Âge. Voilà.
C'eût été donner raison à l'islamisme que d'exercer un choix préférentiel, écrivez-vous, ouais, incluant les chrétiens et excluant les autres, à commencer par les musulmans. C'eût été laisser les musulmans otages de la terreur que de ne pas leur adresser un signe d'exception pour mieux les rétablir dans l'ordinaire du commun.
Oui, c'est cela. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que le choc des civilisations, cette théorie de Samuel Huntington, qui est assez fausse en plus sur le papier, est en train de devenir programmatique. Et en fait, lorsque nous luttons pour les chrétiens d'Orient, nous luttons pour la figure de l'homme de manière universelle, non pas en faisant un particularisme. Et luttant pour la figure de l'homme, nous luttons pour, à la fois, l'ouverture des musulmans de bonne volonté, et pour le réveil des Européens qui sont dans le réveil spirituel des Européens qui sont dans l'oubli ou dans la crispation. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a vu fleurir de petites associations qui ne sont pas totalement antipathiques de jeunes, qui sont dans une forme de réflexe identitaire. Et on a l'impression qu'en se rendant là-bas, en Irak, en Syrie, pour s'occuper des chrétiens d'Orient, ils s'occupent de leur propre sentiment de désarroi. Pas de confusion, les chrétiens d'Orient valent mieux qu'une forme de captation. Rejet ou captation, c'est au fond la même attitude de déni. Il faut prendre les chrétiens d'Orient pour ce qu'ils sont.
Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Je recevais Jean-François Colosimo ce matin, l'auteur chez Fayard, Les Hommes en trop, La malédiction des chrétiens d'Orient. Je voudrais rappeler le titre aussi de Jean Famille, Chrétien d'Orient, le courage et la foi, un auteur canadien d'origine égyptienne qui nous présente un regard décalé, très important par rapport à cette vision des chrétiens d'Orient, vue d'Amérique du Nord, Média Saint-Paul. Je remercie Philippe Bredin, Dany Journeau, Didier Pinault pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons Michel Schaeffer et le service protestant. Merci.